Bonjour, nous sommes sur Aléga FM 93.1, dont la vie est un roman. Nous sommes mardi matin, 11h, et nous allons entendre une interview que j'ai faite dans mon salon avec un helvète de passage, un vaudois. Alain Frudiger va nous parler de son dernier livre, Arpenté. Bonjour, nous sommes sur Aléga FM 93.1. Dans la vie est un roman, et aujourd'hui nous recevons Alain Frudiger pour son livre L'Arpenté, qui est paru à la vénérable maison La Baconnière, je ne sais pas si elle est toujours à Neuchâtel, mais qui fut à Neuchâtel. Et donc, bonjour Alain.
Bonjour Yves.
Et donc,
alors la maison n'est plus à Neuchâtel, elle est toujours vénérable, mais d'un autre côté elle a rajeuni parce qu'elle a été reprise par une jeune éditrice et elle est désormais à Genève.
Ah oui. Et donc l'arpenté raconte...
Enfin, c'est arpenté sans l'apostrophe. Oui.
Arpenté raconte ton enfance entre 1977 et 1984, entre tes 4 et 7 ans. Ça marche au niveau de ce que je dis
Non, 6... ça voudrait dire 80-84, parce que je n'ai pas de souvenir de... Ah, oui. Des premières années, malgré tout.
Bon, au début de ton récit, tu as 4 ans. Enfin, ça raconte ce que tu as vécu entre tes 4 ans et tes 7 ans.
Voilà, c'est à peu près ça,
ouais. On parle à des Français, des Parisiens, des gens de l'Île-de-France, tout ça, donc il faut qu'on contextualise. C'est dans la campagne vaudoise, c'est un, quelque chose qui s'appelle le Gros de Vaud.
Le Gros de Vaud, oui, c'est de la plaine, donc c'est de la plaine agricole dans le canton de Vaud. C'est très, très rural. Mais ce qu'il y a de particulier, je pense, par rapport à un contexte français, c'est la présence du protestantisme et de l'organisation de cette campagne en paroisse protestante avec des villages qui sont connectés non seulement au niveau administratif, communal, politique, mais également du côté religieux par des paroisses.
Oui, donc là, il faut penser au canton, même si vous en avez une vague idée. Vous savez qu'il y a des cantons protestants, des cantons catholiques, qu'il y a différentes langues qui sont parlées en Suisse, tout ça. Et donc là, c'est un enfant qui découvre son environnement, et en découvrant son environnement, il découvre qu'il a un corps, des sens, une pensée, et qu'avant d'explorer son environnement, il n'était rien. Et quand on parle de son environnement... Ça peut être le sol, par exemple. Enfin, ça commence avec une exploration du sol.
Ça commence par le sol, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps au sol lorsqu'on est un petit enfant. Déjà, parce que d'abord, on ne sait pas forcément marcher, ou simplement, on se fatigue vite, ou on y tombe. Donc, et puis, la vue est aussi plus courte. Il y a cette myopie enfantine. Donc, on regarde le proche. Et puis, ça passe par la vue et par le toucher. Évidemment, aussi par la bouche, mais ça, j'ai pas forcément de souvenir. Mais en tout cas, la vue et le toucher, le sol, c'est très important. Ces expériences-là, ces expérimentations-là, et ce qu'on trouve sous la main, ce qu'on touche, ce qu'on tâte, et puis aussi, finalement, à partir de ce point du sol, la vue se développe et on sort petit à petit de la myopie, et ça permet de percevoir l'environnement de manière un peu plus large. Mais toujours à partir d'un point très précis qui est le sol, qui est peut-être aussi à notre mesure.
Et donc, pour commencer, je me posais la question, comment tu as travaillé? Tu avais un plan? Tu avais, qu'est-ce que c'était le schéma de départ et le développement que tu en as fait?
Le schéma de départ, c'est vraiment quelque chose de spatial. C'est une cartographie, mais je n'avais pas un plan au sens d'un plan sous les yeux. J'avais une cartographie mentale parce que j'avais une perception assez claire de ce village, de ces maisons, de ces routes, et puis des articulations entre eux. Enfin, assez clair, il y a parfois des zones de brouillard dont je parle dans le livre, mais globalement, c'était cette tentative de cartographier une enfance. Alors ça déroule justement des lieux et des sensations à partir d'un plan pas entièrement linéaire, parce qu'évidemment il y a quelques reliefs, mais c'est un parcours, c'est une reconstitution d'un territoire, d'un paysage spatialisé avec ses hauts, ses bas, ses montées, ses distances et ses impressions aussi bien sonores, visuelles que tactiles.
Je me suis demandé justement si tu avais travailler avec une idée des cinq sens, en les prenant les uns après les autres.
Alors, il n'y a pas eu de systématique de les prendre les uns après les autres, parce que vraiment, la construction, elle est d'abord spatiale. C'est-à-dire que si le mouvement m'amène à un certain lieu où le premier souvenir ou le souvenir marquant de ce lieu va être olfactif, ça va être le sens sur lequel je travaille. S'il est d'abord auditif, ce sera ça. Après, les sens se combinent, évidemment, mais c'est d'abord lié au lieu et à ce qui est chargé dans chaque lieu, pour moi, au niveau sensoriel et perceptif.
Et donc, est-ce que tu as fait une enquête? Est-ce que tu as fait un gros travail de documentation?
J'ai fait, je dirais, un triple travail. D'abord, c'est ma propre mémoire, donc je parcours mentalement et en fait par l'écriture, évidemment, tous ces lieux, ces maisons, ces différents villages, ces chemins, ces bois, ces champs. Ensuite, après ce premier jet, j'ai pu consulter à nouveau un certain nombre de photographies non seulement de mon enfance, mais également de la région à cette époque-là, et quelques discussions aussi avec des proches ou des gens qui ont vécu là-bas pour vérifier tel ou tel détail. Il ne s'agissait pas de vérifier tous les souvenirs et toute l'organisation non plus, parce que je ne suis pas dupe du fait que la mémoire recompose en partie les choses, et puis ça n'était pas un problème pour ce travail. Mais par contre, ici ou là, il y avait tel élément qui demandait peut-être une clarification, parce que j'avais une sorte de verrou, et ça ouvrait à nouveau des choses. Et une fois que toute cette matière a été rassemblée et qu'une première version du livre a été écrite, je suis retourné sur place, dans un lieu que je n'avais pas arpenté depuis assez longtemps, dans l'idée, là aussi, peut-être de refaire jaillir certaines impressions, certaines sensations. Là, ce n'était pas du tout de la vérification, c'était plutôt peut-être aller remettre le pied sur un élément que j'avais oublié. Et là, deux ou trois choses sont revenues, notamment la présence d'un château d'eau dans un des villages et de l'impression que ce château d'eau me faisait enfant, tout à coup, m'est revenu en plein visage. Et j'ai pu ajouter notamment ce chapitre-là et quelques autres.
À un moment, à propos d'une fosse avec des cochons dedans, tu dis qu'on t'a dit que c'était un faux souvenir. Disons, tu racontes qu'à 6 ans, il y avait cette fosse avec les cochons, et qu'à 12 ans, quand tu l'as dit à tes parents, ils t'ont dit que c'était un faux souvenir. Est-ce que... Donc ça, c'est passionnant. Donc comment tu as trié entre les faux et les vrais souvenirs?
Alors, j'ai pas absolument trié, parce que finalement, les faux souvenirs font partie du récit également. Celui-ci, avec les cochons, ce qui est vraiment très prodigieux, c'est que jusqu'à tout récemment, j'ai cru que c'était un véritable souvenir. C'est que lors de cet échange avec mes parents que j'ai su que c'était une invention et une reconstitution mentale. Donc, les autres souvenirs, je n'ai pas forcément cherché à les vérifier. Je sais aussi que de toute façon, ils travaillent plastiquement entre l'oubli, la recomposition, les récits qu'on a pu m'en faire, les éventuelles photographies. Et puis la véracité, c'est plus que la véracité des souvenirs, même si je pense qu'elle est quand même assez solide, mais la véracité des sensations m'intéressait beaucoup plus. C'était sur ce travail-là des impressions, des sens, des perceptions que je me suis lancé avec ce livre.
Et donc dans ton livre, tu effeuilles, t'effleures, tu prends ton temps, tu ne brûles jamais les étapes. Est-ce que c'est d'emblée comme ça, ou c'est obtenu à la Flaubert par des mécanismes de réécriture?
C'était d'emblée comme ça, parce que c'est une cartographie, dès que, en fait, c'est presque comme un chemin de Damas, c'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque stade, il y a un arrêt et il y a soit un événement, soit une sensation, soit un petit récit, et ça, forcément, ça arrête le parcours et le chemin. Donc ça s'est obtenu de la sorte par ce déroulé spatial. Ça n'empêche pas tout à coup, ici ou là, un moment d'accélération ou de course, mais c'est toujours localisé sur une étape du chemin de Pays, en l'occurrence, puisque ce n'est pas Damas, mais c'est un chemin avec des étapes qui s'articulent, mais tout ça, malgré tout, dans une certaine fluidité. Il n'y a pas de chapitre, par exemple, dans ce livre.
Il y a une grande précision de vocabulaire, tu l'avais d'emblée ou...
Alors la précision de vocabulaire, je l'avais d'emblée parce que c'était un des enjeux du livre, c'est-à-dire que retrouver toutes ces impressions d'enfance, toutes ces sensations, ces finesses tactiles, olfactives ou autres, ces perceptions, ces émotions, elles étaient là enfouies en moi ou plus ou moins enfouies parce qu'en fait j'avais une assez bonne mémoire, ce qui m'a aussi permis de me lancer là-dedans. Mais l'enjeu, c'était d'être le plus juste possible par rapport à tout ça, à toutes ces sensations, toutes ces perceptions, et pour cela avoir un vocabulaire qui ne trahisse pas cette sensibilité-là. C'est aussi pour ça que je pense que je peux écrire ce livre maintenant, mais j'aurais pas pu le faire il y a 10 ou 20 ans, et évidemment pas à l'âge enfant où on aurait même oralement pas de quoi mettre ses mots sur ses impressions. Mais cette précision-là était nécessaire pour rendre justice au plus près de ses perceptions.
Et donc, ils font une semaine sur France Culture, sur Max Weber et l'économie. Et donc, ce livre a quelque chose de aussi qui c'est un univers 100% fonctionnel. Et j'aime beaucoup le côté matériel, fonctionnel. Il y a une amitié pour l'existence des choses, pour le réel. Là. Il y a pas de fuite dans l'imaginaire. Il y a très peu de fuite, en fait. Il y a la découverte, quoi. Donc on est... Oui, c'est ça, c'est comme explorer le Congo, être Livingstone et puis remonter un fleuve. C'est ça, hein.
Oui, alors c'est remonter le fleuve d'une enfance ou des souvenirs. Effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de départ dans l'imaginaire parce que ça n'est pas nécessaire, en tout cas pas à cet âge-là. On oublie à quel point, entre 3 et 7 ans, tout est neuf. Chaque chose du paysage, chaque situation, chaque personnage, un animal, une plante, tout est incroyablement neuf et l'objet d'un étonnement d'abord ou d'une impression plus ou moins forte, mais il y a de quoi s'émerveiller, être curieux ou s'effrayer, peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de combler le réel par quelque chose qui serait soit une fuite, soit un supplément. Il faut dire aussi peut-être que c'est plus facile d'avoir tout cet environnement sous une manière neuve quand on peut vivre beaucoup en extérieur étant enfant. Je pense que l'extérieur, de par les lumières, les températures et des tas d'autres éléments, contribue à façonner des impressions beaucoup plus fortes que si on est confiné à l'intérieur toute son enfance dans une petite chambre ou un petit territoire.
Il y a cette façon de ne pas s'appesantir. Oui, effectivement, il y a quelque chose d'un elfe, comme ça, d'une fée qui survole. Tu commences par décrire le sol, et puis donc c'est sable, herbe, terre sèche, boueuse, gravier, goudron, parquet, dalle, tapis, couverture. Le plus dur, route goudronnée, goudron et gravillon mêlés, une odeur forte. Il y a cette espèce de continuité. On pourrait prendre aussi comme image le paysage perçu d'un véhicule en mouvement. Il y a un très beau rythme comme ça. Il y a un rythme constant qui tient comme le rythme de la marche d'ailleurs, qui tient effectivement la distance. Est-ce que tu l'as travaillé? Tu en étais conscient?
Oui, parce que ça, c'est la dynamique de l'écriture elle-même qui emmène vers le mouvement. Enfin, moi, j'ai toujours été très sensible de toute façon à l'oralité et au rythme. Et puis, dans l'écriture, je pense que ce côté marcheur, parce que il s'agit d'arpenter ce territoire, il s'agit de retrouver des chemins. Donc, ce rythme de la marche, ce défilement, évidemment, qui va se retrouver dans l'écriture. Et par ailleurs, avec le mouvement induit, ça peut produire peut-être cette impression de détachement ou de glisser sur les choses. Mais pour autant, je ne dirais pas que c'est une question d'elfe, parce que le corps est malgré tout bien là. Il y a
Oui.
des moments, la morsure par un chien, ou la blessure qui pourrit et petit à petit se détache, ou alors encore le corps piqué par un insecte qui change de forme,
Griffé,
griffé. Ces impressions-là sont aussi très très importantes. C'est pas aérien ou évaporé.
non, puis un face à face, oui. Si tu dis, je sais pas, une haie de laurier-cerise, on est en face, on n'est pas au-dessus ou en dessous, ou une grande bonbonne remplie de jus de pomme fraîchement pressé, c'est, ou la route à partir en voiture. Enfin, tu vois, c'est des choses. On est en face.
On est en face.
On n'est pas au-dessus, on n'est pas du tout en surplomb.
Ah non, absolument pas en surplomb, c'est à hauteur d'enfant.
On se lève petit à petit, quoi. Tout est une conquête, tout est.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bah, d'autant plus ce rapport aux choses, parce qu'en fait, il s'agit aussi pour un petit enfant de se mesurer à son environnement. Et se mesurer, ça peut être à la fois se confronter, mais simplement, tout simplement aussi au sens premier, c'est-à-dire prendre conscience de sa petite taille et de l'immensité de ce qui nous entoure, même de la taille des adultes, de la distance entre deux poteaux d'un but de football, ou alors simplement aussi de la hauteur, parce qu'il s'agit beaucoup d'abord dans toute la première partie du livre d'un parcours horizontal à travers ce paysage, et petit à petit la verticalité apparaît avec aussi le regard qui s'élève vers le haut, et puis finalement dans un dernier temps il y a justement la dimension du temps, le temporel qui apparaît. Mais cette articulation finalement en trois temps, elle est aussi celle de cette perception de l'enfant et du déplacement dynamique et de la mesure prise des choses.
Oui, on a une spirale, donc l'exploration se fait à ses pieds au début, et puis petit à petit le terrain va s'agrandir autour.
Voilà.
À un moment tu dis qu'il y a un grand t'ennuie, enfin bon, on t'identifie au narrateur, et que ton père te dit que c'est parce qu'il n'aime pas le catéchisme, et donc on découvre que ton père est pasteur. Mais tu t'appesantis pas du tout là-dessus, c'est comme si tu décrivais un arbre, enfin c'est un événement comme ça, mais ça passe très vite. Hein.
Ça passe très
vite. C'est pas le sujet.
D'abord, c'est pas le sujet, et puis ensuite, c'est aussi ce que je décris dans le livre, c'est que c'est à ce moment-là que je prends conscience de ce que ça peut impliquer d'avoir un père qui exerce ce métier. Mais sinon, en fait, grandir dans cette famille-là, avec un père qui exerce cette profession, à cet âge-là, c'est d'une normalité parfaite, ce qui fait que ça ne donne pas lieu à un étonnement particulier. L'étonnement vient justement de ce décalage avec la perception des autres. Là, en l'occurrence, ce camarade plus grand que moi, qui, lui, suit des cours de catéchisme avec mon père et le perçoit très différemment la figure du pasteur que moi, qui étais simplement à la maison avec lui en tant que père. Mais par ailleurs, je ne m'appesantis pas, parce qu'à cet âge-là, finalement, c'est un événement qui surgit et disparaît. La conception vraiment plus, comment dire, plus cérébrale et intellectuelle de ce que ça peut impliquer, elle vient plus tard, elle vient pas entre 3 et 7 ans.
Oui, sur pour en parler tout de suite, sur le côté plan d'eau étal, comme ça, sur le ou la vision d'une prairie, tu dis aussi qu'il n'y a pas de différence entre toi et les fils de paysans, entre la majorité des gens qui sont là, enfin, pratiquement tout le monde se sent à égalité. Et là, on est très loin d'un espace urbain, quoi. C'est assez étonnant.
Oui.
Côté à la Rousseau, il y a quelque chose d'idyllique dans cette vision qui... Et que je sens bien, enfin, on a tous été à la campagne, on sait comment ça marche. Mais c'est quand même formidable. Et là, l'effet exotique est assez fort.
Oui, alors moi, je vois bien, évidemment, toute l'illusion qui a pu être en jeu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'évidemment, les classes sociales existent même à la campagne. Déjà, il y a des paysans riches et d'autres qui sont pauvres, qui n'ont pas leur propre terre. Il y a quelques notables, il y a aussi des strates. Mais par contre, c'est vrai qu'entre 3 et 7 ans, dans cette enfance-là, il y avait ce sentiment d'égalité complète avec les enfants, quelle que soit la profession de leurs parents. Il y a, les intérêts sont communs, les classes sont communes, les jeux sont communs, le parler est commun. Finalement, c'est peut-être que avec le recul, et peut-être aussi avec le temps, que les distinctions sociales deviennent plus marquées.
Oui, et c'était encore très homogène, mais c'est enfin, je vois bien, oui. Et donc, il y a la fluidité, oui, de ce déplacement. Tu marques beaucoup les déplacements, tu vois. À un moment donné, tu parles d'un rideau de lamelles en plastique. Faut-il l'écarter ou plonger dedans? Ça casse la fluidité. Et puis tu décris le tapis est doux, la table est basse, dans la chambre deux posters, etc. Donc on est tout le temps dans une... Il y a un mouvement, quoi. Enfin, c'est la description d'un mouvement, ouais, d'un mouvement dans l'air, comme ça, d'enveloppement et de pénétration.
Oui, parce que c'est vrai, effectivement, je le perçois encore mieux maintenant en parlant de ces lamelles en plastique, mais il y a aussi une grande importance des seuils, c'est-à-dire de franchir un seuil, de passer d'un lieu à l'autre, d'un extérieur à un intérieur, d'un chemin à une route, d'un bois à un pré, et finalement, c'est par ce mouvement du corps et de la perception aussi visuelle qui est impliquée par ce changement que se fait l'écriture du trajet, et j'ai besoin non seulement de disons que les seuils existent en tant que tels, ils sont très importants, peut-être même plus que ce qui vient juste avant ou juste après, parce que c'est ces seuils-là qui suscitent le plus de sensations et de perceptions, justement.
Oui, il y a une idée d'initiation et de mouvement, hein. Alors tu écris « Expédition dans les bois, surgit un ruisseau, branche moussue, le bruit de l'écoulement, doux, calme, léger, persistant. » Et encore aujourd'hui, quand tu l'entends, t'es replongé dans l'enfance. Donc là aussi, il n'y a pas de ruisseau, on franchit, on passe à travers deux, trois arbres, et brusquement, le ruisseau est là, et tout l'environnement change, et là, c'est l'effet sonore d'abord, avant d'être visuel, enfin, mais c'est vrai aussi d'un appartement, d'une maison, d'une rue, de tous les espaces, enfin, c'est toujours cette idée du... C'est cinétique.
C'est cinétique, et puis il y a toujours cet effet de surprise sur le changement, finalement, parce que là, tout à coup, la surprise, elle est aussi bien acoustique que presque architecturale. Enfin, même si c'est un petit bois, c'est pas une forêt, c'est un ruisseau, c'est pas un fleuve, mais il y a presque un effet de résonance de cathédrale à toute petite échelle. Et dans d'autres seuils, ce qui est découvert derrière... c'est pas que c'était voilé, c'est pas, il s'agit pas de franchir un seuil à travers lequel on arriverait à une sorte de révélation, mais par contre il y a une surprise, parce que la perception est tout à coup entièrement autre, et cette perception saute soit aux yeux, soit aux oreilles, soit à l'odorat, et c'est ça aussi l'avantage de l'enfant qui finalement n'a encore pas vécu grand chose, c'est la nouveauté de chacune de ces sensations.
Oui, c'est un voyage, il n'y a pas de... C'est un voyage. Donc il n'y a pas d'étape plus importante qu'une autre. Et il n'y a pas de quête, en fait. C'est un mouvement. C'est un voyage. Et c'est... ce que j'aime bien beaucoup, moi, enfin, j'ai une lecture anti-anecdotique de la chose, que c'est un souffle, en fait. Hein. Donc, et par exemple, tu dis que les blessures font partie de la vie tous les jours, griffures, échymoses, entailles, les jambes surtout, souvent qui prennent les croûtes, tout ça. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose qui aurait pu être dramatique, qui aurait pu être dramatisé, scénarisé et tout, tu le fermes après l'avoir décrit pour passer à l'étape suivante. Ce qui importe, c'est grandir, c'est le mouvement, c'est bouger, c'est la vie, en fait.
Oui, parce que finalement, même, il ne s'agissait pas de faire une construction dramatique, ça ne m'intéressait pas, même pas non plus un récit de souvenirs en tant que tel. La dramaturgie, elle se fait par un mouvement qui est presque celui d'un travelling, en fait. C'est un travelling à travers ces lieux d'enfance et ces sensations. Et puis, pour rendre la vie au plus près, c'est aussi peut-être ne pas s'apesantir sur ces petits drames qui pourraient prendre des ampleurs qui les feraient sortir, en fait, de non pas de ce corps, mais en tout cas de ce mouvement. Il forcerait à introduire, par exemple, la notion du temps ou la notion quelque chose de plus cérébral.
D'un destin, de quelque chose d'irréparable, de définitif.
Voilà.
On a exactement l'inverse.
Oui, oui, oui.
Et tu parles d'un moulin qui est l'endroit le plus paradisiaque de ta prime enfance. C'est pas le moulin là qui m'intéresse, c'est le paradis. Et tu racontes aussi le retour de l'enfant à la maison. Et c'est très accueillant, le portail est ouvert, il y a des lumières dans la maison, on est accueilli par le père ou la mère. Tu décris ta fratrie avec beaucoup de douceur, tu as des frères, une sœur. Et tout ça est assez... c'est comme un chromo, c'est assez beau, c'est comme... Et t'as des peintres, justement, vaudois ou alsaciens, ou tout, qui ont peint des scènes de campagne. Et on est dedans, quoi. Il y a quelque chose d'une vision d'un espèce de bonheur sans histoire. Et ça n'a rien de sentimental, c'est jamais visible, en fait. Mais c'est le. Si tu veux, c'est une vision que j'ai effectivement de l'extérieur. C'est le bruit qui se penche sur quelque chose d'assez paisible. Et ça fonctionne assez bien, je trouve.
Oui, alors cette question du paradis ou du bonheur, elle est pas liée à des événements, elle n'est même pas non plus liée à des... Oui, il y a des intensités, mais elle n'est pas non plus liée à une exaltation plus particulière que ça.
Ah oui, non, c'est un bonheur calme.
C'est un bonheur qui est décrit en termes, par exemple, de lumière, de son, de perception... Et qui n'a pas non plus vocation à durer, il n'y a pas non plus de tristesse au fait qu'il ne dure pas. Il est lui aussi spatialisé finalement. Et quelque part, il n'est évidemment pas permanent, mais il est là comme les choses plus petites sont là. Il est à l'échelle des choses plus petites et des événements plus petits. Il n'en est pas extrait. C'est pas le paradis perdu dans lequel on ne revient jamais. Il est contigu.
Bah, l'impression qu'on a, c'est que tu es encore dedans, parce que comme ce développement est tellement organique, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, tu vois. Et tu décris aussi un univers de choses qui arrivent, donc c'est avec l'âge, il va y avoir les voitures, les différentes sortes de voitures, il va y avoir les maquettes d'avions, il va y avoir la musique, enfin il y a les tracteurs qui sont très spectaculaires, il y a un certain nombre de choses, et qui sont décrites comme les insectes, ou comme les céréales, ou comme les fruits sur les arbres fruitiers. Tout ça arrive avec beaucoup de naturel au moment où ça doit arriver.
Oui, et puis même, d'une certaine manière, les êtres humains sont pris dans ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils sont aussi décrits, en tout cas en partie, comme les végétaux, les animaux ou les objets, c'est-à-dire que c'est avant tout par des impressions plastiques, visuelles, tactiles, et par un effet d'étonnement, de surprise, d'émerveillement, de dégoût, pas tellement d'indifférence, justement, parce qu'il y a cette nouveauté constante. Mais les frontières, forcément, ne sont pas si marquées entre l'animal, la machine, l'être humain, le végétal. Tout est, d'une certaine manière, assez organique. Même si il ne s'agit pas non plus de penser qu'un végétal est une voiture ou vice-versa. Mais c'est la perception n'a pas à être différente par la nature des objets qui seraient d'abord dans une sorte de prédéfinition, de catalogue, de case. L'inné n'est pas encore arrivé à la perception.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
We'll be right back.
Et donc, nous reprenons l'antenne en direct. Là, nous venons d'entendre Téléphone, mentionné par Alain Frediger dans son livre comme l'un des premiers groupes de rock qu'il a entendu. Et nous allons rester dans le canton de Vaud. Nous allons parler maintenant d'un auteur qui est vaudois et qui a obtenu un prix Goncourt. Nous avons reçu une revue grand format, assez épaisse, qui s'appelle Le Persil, et c'est un numéro quintuple du Persil, et Le Persil est consacré au KCC. Et pour en parler, j'ai fait venir un ami qui connaît très très bien le sujet, qui a préfacé un livre de poésie de Jacques Gesset, qui a fait des entretiens avec lui qui malheureusement sont restés inédits, et qui va donc longuement nous parler du KCC, et qui s'appelle Christophe Calam. Salut à toi.
Salut. Repensons à Chessé. En fait, Chessé s'insère dans ma biographie à un degré tout à fait incroyable, donc je suis obligé de parler de moi. Pardon pour le narcissisme. Mais Chessé a été mon professeur au gymnase, un professeur que j'ai voulu, parce que j'ai changé de classe pour l'avoir. Et j'étais devant l'écrivain.
Donc le gymnase, c'est le lycée.
Oui, le gymnase, c'est le lycée, exactement. Je l'ai eu dans l'année de bac et j'ai passé mon bac avec lui et Bertille Gallon comme expert. Et sur
Bertille
une illumination,
Gallon étant un éditeur.
On en parlera. Sur une illumination de Rimbaud, ils m'ont mis la note la plus élevée possible. Donc c'était des moments de bonheur. Je dois à Chessé, si j'ose dire, la préhistoire de ma formation d'homme de lettres. Parce qu'en même temps, il y avait une autre tendance, en quelque sorte, au début des années 70, la tendance telle qu'elle, et l'avant-gardisme de Solers, de Barthes et de Blanchot. Et ce qui est, au fond, un contraste, je dirais que le secondaire a été... Non que Chessé soit un exemple de professeur, je crois que c'est même l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'enseignement secondaire, mais ce qui est au contraire la force de l'écrivain, c'est d'être là. Et moi, je n'ai jamais pu croire que les écrivains n'existaient pas et qu'avec des textes. Pourquoi ? Parce que j'avais rencontré Chessé. Et dans mon enseignement, dans les cours sur la littérature romande, qui faisait la deuxième année de mon programme sur 3 ans, je commençais par Rousseau, je finissais par des écrivains contemporains qui venaient dans ma classe, qui venaient répondre aux questions des élèves qui avaient lu leurs livres, et je voulais leur montrer que les écrivains existaient, et qu'on n'était pas en face de trucs qui sortaient de la serviette du prof. Donc ça, c'était très important pour moi au point de vue didactique. Je dis non, l'écrivain, ça existe, et c'est très, très important. Non que je pense que la biographie puisse résoudre en quoi que ce soit les problèmes de l'œuvre. Il y a un effort critique à faire, ça c'est évident. Mais l'écrivain est là. Et quand il s'agit de Chessé, l'écrivain était très bien là. En 73, je suis sorti en 73. C'est l'année de l'Ogre. C'est l'année où Chessé gagne le prix Goncourt. Et c'est une année tournante pour lui et pour la stratégie littéraire. La rencontre de Chessé et de Bertille Gallon autour des éditions de la Ligue vaudoise, qui s'appelait les éditions de la Renaissance vaudoise, c'est tout dire, correspondait à un programme littéraire et politique très intéressant. Dans les pays protestants, il y a toujours un déficit structural, si j'ose dire, de narcissisme. Donc il faut célébrer le pays, faute de quoi les gens dépriment. Et cette entreprise de célébrer le pays avec fondue, raclette, course en montagne, grosses chaussettes, chemise à carreaux, etc., c'était quelque chose de très important dans cette stratégie éditoriale. Il fallait des écrivains qui célèbrent le pays. Et la quête de Chessé et de Bertille Gallon, ça a été d'avoir un programme d'écrivains romans qui, un par canton, parce que plus on ne pouvait pas les valoriser. Et il fallait laisser tomber les autres et, en quelque sorte, perdre les autres pour gagner un brelon d'écrivains qui représente Bouvier pour Genève, par exemple,
Boisard
pour le Jura... Chapa, évidemment, Corinne Aby était morte, mais Chapa pour le Valais. Et il y avait en fait une sorte d'émulation littéraire pour célébrer le pays. la Terre et l'Esprit. Hein. C'était la chronique de Bertille Gallon, qui par ailleurs était un grand reporter qui avait parcouru le monde entier. Donc on ne peut pas l'accuser de provincialisme. Bien au contraire, s'il y a quelqu'un qui connaissait la Chine aussi bien que le canton de Vaud, c'était lui. Et ce qui est très très intéressant, c'est de se dire que voilà, cette stratégie littéraire supposait qu'on encadre Chessé à parité avec d'autres auteurs. Mais évidemment, Chessé ne supportait pas d'être encadré, surtout à partir du moment où il a gagné le prix Goncourt. Donc à ce moment-là, il a eu une stratégie tout à fait différente qui retrouvait celle de Ramu. Chessé avait des sentiments très ambivalents vis-à-vis de Ramu, comme toute sa génération. Hein. On avait un prof qui nous avait dit « il y a deux figures qui ont écrasé mon enfance, c'est le général Guizan et puis Ramu ». Donc il y avait ces deux bustes énormes dans mon collège, un énorme buste de Ramu et un énorme buste du général Guizan qui avait patronné les promotions encore de son vivant, etc. Donc c'était des figures du pays et à ce titre-là, c'était des écrivains illisibles. Mais il fallait les lire. Et moi, j'ai découvert Ramu à l'université. Et je dois dire que Aimé Page Peintre Vaudois, c'est l'histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de tous les gens de culture dans un pays qui déteste la culture profondément. En Suisse, il y a trois choses qui comptent. L'argent, la nature, c'est-à-dire être tout seul dans le vide avec des équipements très chers, et le sport. En dehors de ça, c'est ça qui a remplacé travail, patrie, famille. Donc, en dehors de ça, tout est une gêne. Et je connais un parlementaire vaudois qui a dit « Moi, je suis un anorexique de la culture ». Déclaration absolument prodigieuse. Évidemment, il appartient au Schweizer Volkspartei. Et on a cette réaction anticulturelle, anti-intellectuelle, qui fait qu'aujourd'hui, les Suisses, n'ayant pas fait d'études, sont obligés de prendre des Français et des Allemands quand il s'agit de choses pointues. Ça, c'est un autre problème. C'est le malheur des Suisses. On ne les pleure pas. Pour revenir à Chessé, je dirais qu'à partir du moment où Chessé a eu un pied à Paris, il a adopté la stratégie de Ramu. Stratégie de Ramu, c'est roman à Paris, et poésie et littérature en Suisse. Donc il a toujours joué sur deux tableaux. Un tableau littéraire, plus raffiné, avec ses poésies, mais aussi avec des plaquettes sur les peintres, etc., en Suisse, publié par des éditeurs suisses, et il les a tous faits. Hein. Et puis, d'autre part, à Grasset et Paris.
Et donc, tu devrais parler un peu de la stratégie de Grasset.
La stratégie de Grasset, dans laquelle il est extrêmement bien tombé, on est dans des années de réaction. Mais on ne voit pas tout de suite cette réaction. Mais
par rapport
la réaction
à tel quel et au nouveau
à 68. Ouais. Il faut détruire l'hégémonie intellectuelle de la gauche, ouais. L'hégémonie littéraire de la gauche. On a eu un long épisode existentialiste, un long épisode structuraliste. Il faut passer à autre chose. Et c'est quoi autre chose? C'est retour au roman, c'est-à-dire à la vraie France, qui comporte des provinces, donc des tableaux de provinces et du cul. Ah ben, le mélange de cul et de province, ça doit en principe dissoudre le nouveau roman et son, entre guillemets, terrorisme intellectuel. Mais il y a des gens qui n'en sont toujours pas revenus de ce terrorisme intellectuel. Hein. Si vous prenez la revue des deux mondes, ils sont encore traumatisés alors que ça fait 50 ans qu'ils ne sont plus menacés. Mais le traumatisme est très durable, c'est très, très intéressant. Ce besoin de reprendre pied dans la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire dans le réalisme. Et il y a deux moyens forts de réalisme, c'est le régionalisme et l'érotisme. Alors Chessé tombe bien parce qu'il fait à la fois du régionalisme et de l'érotisme. Et c'est exactement ce que Paris demande. Et à ce moment-là, il est consacré prix Goncourt, bien que j'ai entendu des gens, en particulier Françoise Verny, qui était la grande prêtresse de ce mouvement, dire que ce n'était pas le meilleur concours qu'on avait eu. En termes de vente, peut-être que le choix d'un Suisse était un peu excentrique pour le prix Goncourt. Mais c'est très intéressant qu'il y ait eu cet événement-là. Puis ça a placé Chessé, évidemment, dans une dimension tout à fait différente des autres écrivains suisses. Il a cessé d'être un voyou dans les cafés et il est devenu un bourgeois de repas avec une belle maison, pleine de livres, etc. Une ordonnance de vie tout à fait différente.
Et l'image qu'il avait de lui-même aussi. C'est un peu hors sujet, mais juste en passant, en fait, pour toi et moi, peut-être que le roman était dans les essais. Et qu'il était chez Foucault, qu'il était chez Lyotard, qu'il était chez Deleuze et Guattari, qu'il était même quand Pascal Bruckner écrit un essai sur Fourier, ça remplaçait tout à fait l'univers romanesque. Par exemple, si je pense à ce petit Bruckner sur Fourier, c'est aussi bien que Flaubert au XIXe siècle. C'est la même chose. Je pense qu'aux images, c'était des éditions illustrées, donc chez Seuil, là.
Ouais, bien sûr,
et l'écrivain toujours. Ouais. Et la fonction est rendue de, ou barre par barre, bien sûr. Et donc, on,
le voilà. Michelet de Barthes.
Voilà.
Tout ça
nourrit notre imaginaire, quand même. C'est pas notre intelligence que les livres de Foucault ne nourrissent pas. Notre intelligence, ils nourrissent notre imaginaire. Mais alors, donc, pour revenir au Goncourt, là, on devrait peut-être dire ce qu'il y a dans l'ogre pour les gens qui n'ont pas lu en deux mots.
Alors, l'ogre raconte l'histoire d'un professeur névrosé qui a une histoire mais qui ne marche pas avec une gymnasienne et qui finalement se fait chasser du gymnase et se suicide. Alors, il y a la figure du père à travers le directeur du gymnase, que j'ai bien connu, qui était un homme charmant, si ce n'est qu'il a fouetté les élèves au cours d'une manifestation.
Qui a eu un grand succès, qui a fini, ou dans le canard enchaîné en photo.
Absolument, mais ça, c'était les grandes heures de ma jeunesse, avec cette, encore une fois, cette double culture, c'est-à-dire qu'on était à la fois des gauchistes et des gens qui lisaient de la littérature régionale. Et pour moi, cette double culture, elle est fondamentale. C'est-à-dire, je peux pas être qu'un avant-gardiste. Et aujourd'hui, je dois dire que la littérature que je publie ne m'intéresse plus. Voilà, ce rôle d'homme, le rôle de professeur est fini. J'ai 69 ans, le rôle du professeur est fini. Le rôle de l'homme de lettres est fini. Celui du philosophe n'a jamais été déterminant en dehors de la Suisse. J'étais président de la Société suisse de philosophie. Mais il reste en fait l'homme privé et sa culture privée qui concerne plus personne. Mais ses souvenirs aussi, ses souvenirs. Et ce qui est très intéressant, c'est que Chessé a rompu l'attelage. C'est-à-dire, pour adhérer pleinement à Grasset, il fallait rompre l'idée de Galland, à savoir d'accrocher le wagon de la littérature romande à Grasset, parce que Grasset ne voulait pas des autres auteurs romans, et il voulait que Chessé, et Chessé a eu une stratégie de se débarrasser des autres. Donc le moment Galland a été en fait un moment particulier, très court, qui a abouti à une œuvre monumentale qui est l'Encyclopédie vaudoise. Pour la première fois, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur la vie et les mœurs du canton de Vaud. Donc ça s'était plus fait depuis 100 ans. Et c'est très intéressant à ce titre-là. Mais Chessé s'est senti prisonnier, très prisonnier du canton de Vaud, et tout sauf régionaliste en fait. Il aspirait à des livres beaucoup plus universels, et c'est que dans la seconde, la dernière partie de sa vie, qu'il s'est retourné vers les écrivains romans et qu'il a fait des livres dans lesquels sont mis en scène Voltaire, ou Voltaire, notre bon vieux Suisse Voltaire, comme disait Voltaire lui-même, il signait sa correspondance pendant qu'il habitait Lausanne. Il écrivait « Votre bon vieux Suisse Voltaire ».
Il a traité l'antisémitisme en Suisse et il y a eu des polémiques autour de ce sujet.
Alors, là, on retrouve un autre élément. Je voudrais juste finir sur le fait qu'il a aussi écrit sur Benjamin Constant, sur l'enterrement de Ramu, sur des moments structurant et assez étonnant de la vie littéraire romande. Donc il a en fait fait hommage, et le vampire de Ropra, qui décrit un fait divers atroce, finit par un éloge extraordinaire de Sandrart. Donc il a rendu hommage à tous ses maîtres à la fin.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Si on veut alors en venir à la question de Payerne, c'est là qu'il a grandi. Et il raconte que quand le garagiste nazi allumait toutes les autoradios des voitures quand Hitler parlait, et que la parole d'Hitler se répandait dans Payerne, terrorisée, où les gens essayaient de ne pas entendre. Mais avec toutes les voitures du garagiste qui hurlaient les discours d'Hitler, c'était difficile. Et il y a eu à ce moment-là le crime sur lequel Jacques Pilet a mené une première enquête, où un maquignon juif a été dépecé, et son corps a été dispersé dans des boys de lait, comme on dit, c'est-à-dire des grands récipients dans lesquels on transporte le lait qui est fraîchement trait. Et on a retrouvé ces boys de lait, et puis on a évidemment fait le procès des nazis de Payerne. C'est un procès important des années 30, 37, je crois. On est exactement dans la montée des fronts et ce procès de Payerne a manifesté la réaction horrifiée, je dirais, de la bourgeoisie, mais aussi du peuple, hein, contre Hitler. Les Suisses ont été horrifiés par Hitler, parce que Hitler voulait évidemment les annexer. Donc ça, c'est Morgarten, hein, je veux dire, on revient aux plus anciennes batailles de la Suisse. Et il y a eu, à ce moment-là, une sorte de procès emblématique des nazis suisses. Le garagiste en question était déjà appelé par ses amis, il l'appelait le Gauleiter, donc ça dit bien le projet. Et Chessé, évidemment, s'est emparé de ce sujet, parce que c'est un sujet génial. Le père de Chessé était le directeur du collège de Payerne, et Chessé a écrit un récit extrêmement trouble où il laisse sous-entendre que son père aurait assassiné une jeune fille avec laquelle il avait des rapports sexuels. Donc on retrouve encore ces scènes de la vie des...
Mais c'est ça le protestantisme, alors c'est incompréhensible pour nous, catholiques.
Mais oui et non, c'est-à-dire que le protestantisme, vous pouvez prendre par exemple Desperate Housewives, sous chaque piscine il y a un cadavre. Ça, c'est le protestantisme, c'est d'imaginer que sous chaque piscine il y a un cadavre.
C'est un bon exemple de
ça. Ben oui, 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 bien sûr. Et chez Chessé, sous chaque piscine il y a un cadavre, c'est clair. Et Chessé était, on le voit dans sa peinture, dans sa poésie, était évidemment très inspiré par le sadisme. Il a d'ailleurs écrit un de ses petits récits, un de ses derniers petits récits sur Monsieur de Sade. Et alors, ça a été un coup de marketing prodigieux parce que la censure a exigé que le livre soit vendu sous cellophane, sous film, de manière à ce que les mineurs ne puissent pas l'ouvrir. Alors qu'il n'y a pas vraiment de scène qui soit si... C'est le dernier crâne de Monsieur de Sade. Et ça se passe à B, qui est pour Chessé le point central du maléfisme dans le canton de Vaud, parce qu'il avait fait un remplacement à B et qu'il avait surpris les confidences du directeur. Enfin, c'est assez amusant parce que la biographie est toujours emmêlée, évidemment, à l'œuvre littéraire, c'est normal. Mais c'est pas, si on veut, la force de Chessé, c'est d'avoir mis en scène ses récits, et puis ça, personne ne lui enlèvera, c'est-à-dire qu'il a vraiment, de ce point de vue-là, écrit quelque chose de très, très remarquable. Mais bon, à cause de l'avant-gardisme latent, Chessé était considéré comme étant un auteur commercial et un museau quelconque. Et je pense que ça, c'est une très, très grave erreur. Alors, si ce numéro que je découvre, hein, du Persil,
est-ce que son permet... Un écrivain régional, les régions peuvent articuler
ça? Non, c'est un écrivain universel. Il appartient absolument à la langue française, dans la mesure où il
appartient... Mais ses modèles sont 19e-istes
Non, ses modèles ne sont pas 19e-istes. Ces modèles, c'est compliqué, parce que son éducation littéraire a été faite par Paulhan et par Ponge. Il a écrit le Séguère sur Ponge. C'est très intéressant. Avant que Ponge soit repris par l'avant-gardisme, on était dans une poésie écrite. Hein, c'est pas du lyrisme. Ce qui est intéressant, c'est la dualité entre le lyrisme et la poésie écrite. Et la poésie qui est sortie de la guerre est une poésie lyrique, mais tout de suite après, elle a été contrebalancée par des poésies un peu pisse-froid, un peu glaciales, comme celle de Bonnefoy ou celle de la revue L'Éphémère, etc.
Tu penses à Char?
Non,
Char. C'est lyrique alors?
Char, c'est lyrique.
D'accord.
Char, c'est lyrique. Sans ça, ça ne se donnerait pas comme sujet de dissertation. Hein. Ouais. Donc, si les gens ont aimé Char et s'ils continuent d'aimer Char...
Mais Ponche, c'est le nouveau roman avant le nouveau roman.
Ah oui, Ponche, c'est anti-lyrique. Ouais. Ça me semble très clair. Et c'est aussi, comme l'œuvre de Char, une œuvre qui est sortie de la résistance. Puisque Ponge a été un grand résistant, comme Char. Et c'est une poésie, évidemment, opposée, une poésie écrite, qui n'a pas de lyrisme, il ne veut pas chanter, qui refuse le chant, hein, c'est le problème de chanter après Auschwitz. Et il y a une poésie froide, glaciale, écrite, non chantable, hein, anti-lyrique, qui se développe dans les années 50. Et paradoxalement, la poésie de Chessé, on sort. C'est-à-dire que Chessé, dans sa poésie, n'est pas si lyrique. Personne n'a pensé à mettre des poèmes de Chessé en musique. Et ça me semble assez fort. La poésie de Chessé est d'abord rhétorique, mais elle est aussi anti-lyrique d'une certaine manière.
Est-ce que tu te souviens d'un vers ou de deux vers de Chessé?
J'ai aucune mémoire.
Oui.
Je me souviens à peine de quelques vers de Racine. Mais c'est vrai que c'est pas, je veux dire, c'est entièrement lié à mes infirmités.
Est-ce qu'on pourrait trouver un exemple français qui ressemble vaguement à ce que fait Chessé?
Non. C'est unique.
Moi, j'ai jamais lu la poésie de Chessé, donc je
sais
pas
ce que c'est. Non, Chessé était aussi un grand critique. Il a écrit sur les écrivains romans des choses magnifiques et il a écrit sur tous les écrivains des choses magnifiques. Donc, il a un côté, comment dire, s'il n'était pas si profondément asocial, il aurait eu une sorte d'influence à la Solaire, c'est-à-dire pour ouvrir des portes culturelles et pour changer la culture de son temps dans un sens plus, je dirais, oui, plus avant-gardiste.
Mais il est resté totalement fermé. Justement, je parlais de toutes ces essais qu'on lisait, nous, qui paraissaient en 10-18, qui paraissaient en livre de poche. Il est resté totalement fermé à cette culture. Il était quand même, je ne sais pas, comme, c'est comme s'il passait sa vie à lire et à relire Madame Bovary, point.
Non, ça c'est une image. Ouais. Faut pas oublier que c'était un licencié en philosophie.
Oui. Et que... Alors, quelle philosophie? L'existentialisme? La phénoménologie?
La phénoménologie. D'abord, je ne crois pas que c'était un élève de Christophe, mais...
Tu penses qu'il avait lu un livre d'Heidegger, par exemple, chez ça?
Oui, bien sûr. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu à l'époque des réactions violentes contre la philosophie, mais pas lui. Lui, il savait très bien. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il a été, à cause de ses frasques, il a été mis au collège de Fribourg. Et à Fribourg, il a été imprégné... Non, chez les Dominicains. Ces fameux Dominicains dont on a appris depuis qu'ils avaient organisé un phalanstère avec les nonnes et qu'ils cherchaient Jésus dans le sexe. C'est une histoire, c'est très intéressant en ce moment. Deux mythes suisses, tu peux regarder, deux mythes suisses sont en train de s'effondrer. Le collège de Fribourg, tenu par les Dominicains, qui avait organisé un petit phalanstère privé avec
et l'autre est en Valais.
L'autre en Valais, c'est Saint-Maurice. Donc c'était, nous, quand
je
on
des
petit.
Élèves de Saint-Maurice. Alors,
nous, quand on était petits, on nous menaçait. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras à Saint-Maurice. Oui. Et quand on voit que Saint-Maurice était en fait, je ne veux pas dire un nid de pédophiles, mais enfin, il y en avait. Il y en avait. J'en ai rencontré un d'ailleurs, c'est amusant, pendant mon service militaire. Mes soldats m'ont amené chez un père chanoine de Saint-Bernard qui collectionnait les étiquettes et les bouteilles de vin. Il avait un bureau entièrement constitué de frigos posés les uns sur les autres avec des bouteilles de vin. Et évidemment, il nous avait saoulés à mort. Et il s'avère que ce personnage, que je trouvais assez sympathique et folklorique, était justement l'un des personnages qu'il ne fallait pas fréquenter à Saint-Maurice. Alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux mythes pédagogiques qui s'effondrent, le sérieux et la sévérité des collèges catholiques. Et bon, voilà, qu'est-ce qui ne s'effondre pas? L'Église s'est effondrée, le cinéma français s'effondre. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que ça sera le sport?
On n'arrive plus à lire de littérature contemporaine.
Est-ce que ça sera le sport? Qu'est-ce qui va encore tomber dans les, si j'ose dire, les révoltes des abus sexuels? Mais c'est vrai que les abus sexuels ont été, d'une certaine manière, associés aux institutions à l'époque du travail patrie-famille. Ça fait partie aussi de notre révolte. Et notre révolte, on est en quelque sorte validé.
C'était l'image du père tout-puissant qui peut tout se permettre, en fait.
Du père abuseur. Pas seulement que dans les années 20, il y a eu une vraie révolte contre le père.
Mais c'est quand même très marrant parce que j'ai lu un truc sur une institution qui est entre Pau et Lourdes, là. Mais c'était terrifiant. Un article dans Le Monde, c'était la semaine passée. Et ça me rappelait ma propre enfance. Et c'est simplement sur le sadisme, alors même sans parler d'attouchement sexuel, sur les coups qu'on recevait des pions, c'est extraordinaire. Et c'était ressenti dans une normalité totale.
Total.
Alors que j'ai quand même eu un pion qui fessait un gosse par jour, tous les soirs, qui prenait un gosse dans sa chambre et qui le fessait.
Ah, moi,
tu peux pas, être plus près des 120 journées de Sodome et Gomorrhe.
J'ai été fessé par mon instituteur à titre collectif. Il avait fessé toute la classe.
J'ai connu aussi en colonie de vacances toute la colonie qui frappe quelqu'un qui avait jeté, qui faisait tu jetais des silex dans l'eau pour faire des ricochets, mmh. et c'était arrivé dans l'œil d'une des encadrantes, là. Et donc, ils ont fessé le môme qui avait jeté la pierre. Toute la colonie, elle lui a tapé sur les fesses. Je ne sais pas, moi, c'est comme le film de Pasolini, que mes étudiants au Beaux-Arts repassaient toutes les années comme initiation, pour voir s'ils étaient capables de lasser jusqu'au bout.
Comme bizutage,
entre eux. Oui. Ils demandaient la permission d'avoir la salle entre midi et deux pour le passer. C'était
salaud.
C'était un rite.
Ouais. Alors, salaud, j'avoue que je suis sorti à la moitié.
Ah oui.
J'ai rejoint la foule des gens qui étaient sur cette petite place et où tout le monde discutait, mais plus personne ne pouvait entrer voir la suite.
Voilà, tu dois parler dans ton micro, toujours.
Oui.
Voilà donc un personnage à propos de poésie qui incarne bien cette dimension, ce qu'on peut faire avec un matériel ancien. Alors, dans ses films, mais aussi au niveau de la prose, au niveau de la poésie. C'était un élève de Longhi, qui était le prof de Castelnuovo, oui. Pasolini.
Oui, oui.
Voilà un bel exemple. J'ai reçu quelqu'un qui a fait un gros livre aux éditions Macula sur Pasolini, sur les débuts de Pasolini quand il s'intéressait à la poésie. Ça, c'est absolument bouleversant. Écoute, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste une minute. J'espère qu'on n'a rien manqué.
La mort de Chessé.
Sur la mort, vas-y, ouais, on est très une minute.
Chessé a été, j'ai une conférence à la bibliothèque d'Yverdon, et ma petite cousine a été, en fait, jeune stagiaire dans cette bibliothèque, a été le témoin de ce qui s'est passé.
Il est mort en public.
Il est mort en public, et il est mort en défendant Polanski.
Ah oui.
Et on était dans le grand procès de Polanski, et un médecin dans la salle s'est levé pour attaquer Chessé parce que Chessé défendait Polanski, et il a quitté la salle. C'était le seul médecin de la salle. Chessé est tombé foudroyé par une attaque cardiaque, et le seul médecin de la salle était parti. C'était son contradicteur.
C'est une image magnifique. Hein.
Magnifique.
Un grand roman.
Oui.
Tu devrais écrire. Écoute, merci d'être venu et repasse quand tu veux. Ça a passé comme en 5 minutes. On n'a pas eu le temps de parler de ce Jacques Chessé et de ce numéro quintuple de Persil. À la semaine prochaine. C'était La vie est un roman. Merci à Enrico Mastro Giovanni qui est de l'autre côté de la vitre et à Charlotte qui va bientôt y être aussi. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.